Voilà, bonjour. Alors, c'est vrai qu'on a un culte un peu particulier, puisque c'est un culte où on va parler de SEM 28 et de nos actions humanitaires, surtout nos actions à l'étranger. Et, bon, comme je continue dans le livre des Actes, aujourd'hui, on a un texte qui parle de l'envoi. Ça tombe bien, hein. Un texte qui nous présente un modèle de l'envoi en mission. Je pense qu'on discute souvent de la question de l'appel, de l'envoi, des meilleurs lieux pour évangéliser ou je ne sais pas quoi d'autre encore. Je trouve toujours important de revenir au texte biblique. Je suppose que vous avez, j'espère, tous lu une fois ou l'autre des bibliographies de missionnaires ou des ouvrages sur la mission. Je recommande notamment la biographie de Hudson Taylor, mais ça vaut toujours la peine de revenir au texte biblique et de voir ce qu'ils nous ont dit. Alors, est-ce qu'on a droit ? Oui, voilà. Alors, quelques mots de rappel sur ce qu'on a déjà trouvé dans les évangiles et dans le livre des Actes. Faites des disciples parmi toutes les nations. Vous serez mes témoins. Acte 2, 42 nous rappelle quelle est la mission de l'Église, prier, enseigner, partager, entre autres, partager des biens matériels pour aider les plus faibles, rompre le pain, prendre la scène. Et puis, acte 11, c'est le texte qu'on a vu la dernière fois. On nous appelle à prier, à enseigner, à former des responsables et à être actifs dans l'aide humanitaire. Avec l'église d'Antioche, qui nous occupe aujourd'hui et qui nous a déjà occupé la dernière fois. Tu peux mettre la prochaine, voilà, merci. Vous voyez qu'ils font encore autre chose, ils envoient des gens dans d'autres endroits. Qu'est-ce que c'est ? Ah bon. Je me perds dans mes notes. Avec l'église d'Antioche, on a une sorte de tournant. Jusqu'ici, on a des églises qui s'occupent surtout de ce qui est juste autour d'eux. Ici, on a des églises qui commencent à se préoccuper de ce qui est autour d'eux, mais aussi de ce qui est plus loin. Avec une aide humanitaire, non pas seulement aux gens qui sont dans l'église, mais aux chrétiens de Jérusalem. Et ici, à l'envoi de missionnaires à Chypre et en Turquie. Alors, ce sera le texte suivant. Pour l'instant, il s'agit de voir comment ça se passe dans l'église d'Antioche, comment ils ont ici été conduits à envoyer certains de leurs responsables pour implanter de nouvelles églises. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Acte 13. On va juste lire 5 versets. Il y avait alors à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Voilà. La prochaine fois, on verra comment ils ont cheminé dans toute l'église de Chypre pour annoncer l'évangile. Alors, quelques remarques par rapport à ce texte. Vous remarquez qu'on ne nous dit pas grand-chose, en fait, sur cette église d'Antioche, mais je trouve ce qu'on nous dit est important. La première chose, quelques remarques sur l'équipe qui nous est présentée, l'équipe de responsables qui est là. La deuxième chose, quelques remarques sur l'écoute. Vous voyez qu'ils se mettent ensemble à l'écoute du Saint-Esprit. Et ensuite, quelques remarques sur l'envoi. Ils envoient Paul et Barnabas. Et puis, j'aimerais encore faire quelques remarques sur le jeûne. Plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions sur la prière et le jeûne. Vaste programme en peu de temps. On va aller un peu vite. Alors, d'abord, quelques remarques. Tu peux mettre la diapo suivante. C'est là où j'étais un petit peu perplexe, parce que dans mes notes, J'ai pas du tout ce que vous avez, mais vous avez ce que vous devez avoir. Dans l'église d'Antioche, vous avez un petit rond rouge pour indiquer où est Antioche. C'est juste à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Aujourd'hui, c'est en Turquie. Et puis, on nous présente les responsables de cette église d'Antioche. Il y a d'abord un juif de Chypre qui s'appelle Barnabas. Et c'est sans doute le responsable principal dans le Nouveau Testament. Quand on fait une liste de personnes, souvent le premier est le responsable. Ensuite, il y a Siméon le Noir, donc un Africain, probablement qui vient du Soudan, parce qu'à l'époque, dans cette région du monde, là, il n'y a pas beaucoup de Noirs qui viennent d'ailleurs. Ensuite, il y a Lucius de Cyrène, donc c'est un Maghrébin. Cyrène est à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Les chrétiens des premiers siècles pensaient que ce Lucius de Cyrène était Simon de Cyrène, dont on parle dans Luc 23. Vous savez, celui qui a porté la croix de Jésus. Alors ça, on n'en est pas sûr. Si c'était le cas, ça serait le père ou le beau-père de l'apôtre Paul, d'après les indications qu'on nous donne. Oui, vous rechercherez dans vos Bibles, hein, les différentes... Bon, on ne sait pas si c'est lui. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce sont des gens de Cyrène, donc certainement ce Lucius, qui ont été les premiers à évangéliser les païens à Antioche. Ensuite, il y a un juif de Turquie, Paul ou Saul, et puis un juif de Galilée, Manaen, et on précise que c'est un homme de la très haute société, puisqu'il a été élevé avec le roi. Voilà, vous avez sur la carte les endroits d'où viennent ces gens. Avec quelques remarques. La première chose, c'est que ce n'est pas forcément facile de faire cohabiter ensemble des gens de culture et de milieu social aussi différents. Je pense que lorsque ça marche, c'est une grande source de dynamisme, mais ce n'est pas évident. Ouais. J'imagine que ce n'était pas forcément très facile pour quelqu'un comme Manaen d'être, on va dire, seulement un des membres de l'équipe. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'être en premier, pas d'être un membre de l'équipe, par exemple. J'imagine aussi que ce n'était pas très facile pour les gens de l'église d'Antioche que tous leurs responsables sont des étrangers. Oui ? Et en passant, c'est un des défis de beaucoup de nos équipes missionnaires à l'étranger, qui sont souvent des équipes multiculturelles et qui sont dans un pays où ils sont tous des étrangers. Priez pour ces équipes missionnaires parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour eux, ce n'est pas forcément simple non plus pour l'Église qui les accueille. Pour une petite anecdote, vous savez qu'on a des amis qui font un travail d'évangélisation des étudiants chinois. Il y a entre 5 et 10 baptêmes par an. Le problème qu'ils rencontrent chaque année, c'est qu'ils sont taïwanais. Ils ne sont pas chinois. Ouais. Et il y a, on va dire, quelques petites tensions culturelles entre les taïwanais et les chinois. Pas facile d'être responsable d'une communauté de chinois quand on est taïwanais. C'est pas toujours simple à gérer, hein, et c'est important de prier pour cela. C'est un défi toujours de nous reconnaître vraiment comme des frères et sœurs en Christ, quelque part au-dessus ou au-delà de notre culture, de notre profession, de notre milieu social. Une deuxième remarque, dans les implantations d'églises, il y a une erreur courante. Cette erreur consiste à nommer automatiquement comme responsables les premiers convertis de la ville. Et c'est bien sûr important d'honorer les premiers convertis. Maintenant, il ne faut pas forcément confondre l'ancienneté et la compétence. Une autre erreur courante dans nos églises d'implantation, c'est que l'équipe qui est venue implanter l'église devient automatiquement l'équipe des responsables. Et ça pose parfois des problèmes, parce que parfois cette équipe, ce sont des très bons évangélistes, mais ce sont parfois pas des très bons pasteurs. C'est pas tout à fait pareil. Très souvent, quand on déplace un implanteur dans une autre église, toute l'église respire. Enfin, vous voyez, bon, c'est pas facile d'avoir tous les dons. Et les gens ont rarement tous les dons. Ne confondons pas l'ancienneté et les compétences pour aujourd'hui. L'Église évolue et il faut parfois d'autres responsables à d'autres étapes de l'Église. On nous dit encore que dans cette équipe, il y a des prophètes et des enseignants. Vous vous rappelez que dans Actes 11, on a surtout parlé du travail d'enseignement. Ici, on nous dit qu'il y a des prophètes et des enseignants. Probablement, quand on lit d'autres textes, il faut comprendre que Barnabas est le prophète et Paul l'enseignant. Là aussi, ce n'est pas toujours simple de faire cohabiter des prophètes et des enseignants. Pourtant, ils sont très complémentaires. Si on recoupe un peu les différents textes du Nouveau Testament qui parlent des prophètes et des enseignants, ce qu'on peut dire en très gros, c'est que les prophètes ont la capacité, la tâche de dire des paroles précises pour une situation actuelle, alors que les enseignants vont plutôt délivrer un message plus construit et moins lié au présent. Vous voyez, plutôt un commentaire biblique plus général. Souvent, les prophètes vont dire « Dieu m'a dit que » et les enseignants vont plutôt dire « La Bible enseigne que ». Maintenant, le critère, ce n'est pas tellement la manière de parler, mais c'est « Est-ce que c'est vraiment conforme à ce que Dieu dit ?» Et les uns comme les autres peuvent dire des choses justes ou moins justes. Ceci étant dit, on voit que cette équipe prend du temps pour prier ensemble. Ah ouais, très bien, il a tourné tout seul. On voit que cette équipe prend du temps pour prier ensemble et pour écouter Dieu ensemble. Je crois que le point de départ, si on est appelé à écouter Dieu ensemble, c'est que nous sommes tous appelés. La question n'est pas de dire est-ce que je suis appelé ou pas, la question c'est je suis appelé où ? Je suis appelé à quoi ? Et je trouve précieux de se mettre ensemble, à prier ensemble, pour pouvoir à la fois se mettre à l'écoute de Dieu, mais à la fois pouvoir quelque part dire aux autres, j'ai l'impression que toi, tu es appelé à cela. On ne nous dit pas ici comment ils ont entendu l'appel de Dieu concrètement. Dans la Bible, on nous présente toutes sortes de formules, hein, qui vont de la sagesse, d'une voix audible, d'une voix dans le cœur, d'une parole de prophétie, d'un verset de la Bible, ou d'une conviction soudaine. Ici, on ne nous le dit pas. Ce qu'on nous dit en priorité, c'est qu'ils se sont mis ensemble pour écouter. Avez-vous des groupes pour écouter Dieu en groupe ? On voit aussi ici que l'écoute de Dieu est liée à l'adoration. Parce que je crois aussi qu'on écoute bien que lorsqu'on met d'abord Dieu en premier. Lorsqu'on se sent sur nos propres problèmes, on écoute souvent plutôt nos peurs que Dieu. Lorsqu'on se sent sur nos projets, on écoute souvent notre orgueil plutôt que Dieu. Ici, on est appelé à se centrer sur Dieu. Et c'est en commençant par l'adoration qu'on commence à entendre. Ici, on ne sait même pas si l'équipe priait spécifiquement pour l'évangélisation. Ce qui est certain, c'est qu'ils laissent le Saint-Esprit les guider dans une prière qui n'est pas seulement pour eux tout seuls, mais qui va beaucoup plus loin. Ils ont certainement aussi prié pour eux et pour leur église, mais aussi pour bien plus loin que ça. Il y a à ce moment-là sans doute encore beaucoup de besoins à Antioche. Une seule église dans une ville de 500 000 habitants, il y a encore du boulot à faire. Hein ? Oui. Chartres est 10 fois plus petite et il y a 15 églises protestantes et on pense qu'il y a encore du boulot à faire. Hein ? Donc, bon, voilà. N'empêche, ils prient et ils laissent Dieu les amener à prier pour encore plus large, pour encore plus loin. Et voyez que leur prière, c'est une prière qui engage. C'est pas juste une prière, bénis-les et moi je retourne à ma télévision. Vous voyez ? Hein ? C'est bénis-les et moi, est-ce que j'ai une part à faire dedans ? L'Église envoie sous l'ordre du Saint-Esprit. Certains disent parfois qu'ils envoyaient leurs meilleurs éléments, Paul et Barnabas. Le texte ne le dit pas, peut-être les autres étaient encore meilleurs, hein ? On ne sait pas. Ce qu'on dit en tout cas, c'est qu'ils envoient là des responsables expérimentés. Et même encore, Paul, qui a quand même déjà une certaine expérience, est envoyé sous la responsabilité de Barnabas. Barnabas étant certainement le plus expérimenté d'eux, il est responsable d'église depuis déjà très longtemps, il est certainement le converti le plus ancien de l'église, puisque si c'est bien le Joseph d'Acte 2, c'est quelqu'un qui a même vécu avec Jésus. Sommes-nous prêts à envoyer nos meilleurs éléments ? Ouais. Lorsque l'équipe des Hauts-de-Chartres a commencé son projet et qu'ils nous ont dit qu'ils allaient se retirer d'autres activités, vous avez ressenti quoi ? La joie d'envoyer ou la peur de perdre quelque chose ? Et si j'ose dire depuis l'autre côté, je pense que la réussite de ce projet, c'est aussi beaucoup lié à la capacité de l'équipe à se mettre à l'écoute des implanteurs expérimentés. voyez que ceux qui sont envoyés sont plutôt les plus expérimentés. Ouais. Quelques mots là, pour cette fois-ci, ah bah, il l'a déjà mis aussi, des éléments un peu plus pratiques. Alors ça concernait pas forcément, quoique un peu, l'Église des premiers siècles. Par contre, voilà, ça nous concerne aujourd'hui. Il y a différentes manières d'envoyer aujourd'hui. Et je pense que c'est bien de les mentionner. J'ai d'ailleurs pris, vous savez qu'on a juste derrière toutes sortes de casiers avec des pubs, et notamment vous avez ceux de la CIM avec trois, mission long terme, mission court terme, et puis mission découverte. Bon, ça c'est un petit peu annexe, hein. Maïa va partir avec eux en mission découverte. Vous avez long terme et court terme, j'ai marqué moyen terme parce que parfois il faut mettre. Quand on part en mission long terme, il y a une exigence, on doit apprendre la langue et la culture locale. C'est une des raisons pour laquelle ça vaut la peine de partir longtemps. Parfois il faut 2 ans pour apprendre la langue, si on repart tout de suite c'est un petit peu... Bon, voilà. C'est sans doute une des raisons pour laquelle Paul et Barnabas commencent par Chypre et ensuite en Turquie. Parce que si vous vous rappelez bien, Barnabas vient de Chypre et Paul de Turquie. Donc ils vont dans des endroits où ils connaissent la langue, où ils connaissent la culture. Parfois c'est plus compliqué de connaître la culture que la langue d'ailleurs. Bon, il y a aussi des départs à moyen terme. Moyen terme c'est 1 à 3 ans ou court terme 2 à 6 semaines. Voilà. Dans ces cas-là, quand c'est des envois à court terme et moyen terme, on nous recommande toujours de s'inscrire dans un projet local et de se soumettre à une équipe locale. C'est toujours un défi de ne pas venir en donneur de leçons, mais venir en aide. Parce qu'après, on repart, et ce n'est pas à eux à payer nos erreurs. Il s'est développé de plus en plus un envoi missionnaire aujourd'hui en alternance. Alors on en parlera tout à l'heure, parce que c'est un peu ce que font Renaud et Isabelle, et puis Nathalie Elder, c'est aussi ce que fait un peu Valérie en Centrafrique, où on va régulièrement, pour une mission ponctuelle, souvent une mission relativement spécialisée. Ce sont souvent pour des métiers spécifiques que des gens partent pour ça, pour des enseignements, pour être médecin, pour être informaticien, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez ? Et c'est évidemment mieux d'aller régulièrement au même endroit. Voilà. Le défi ici, c'est que quand on revient régulièrement au même endroit, on doit faire très attention d'être un soutien des responsables locaux, parce que sinon, on risque de donner un peu beaucoup trop de poids aux gens un peu périphériques à l'Église qui veulent quelque part nous récupérer. Voilà. Ça, c'est une réalité pour vous donner des sujets de prière. Mais bon, si vous savez que vous avez certaines compétences ou spécificités, n'hésitez pas aussi à contacter des missions et dire « Est-ce que vous auriez besoin de moi pour que je vienne de temps en temps donner un coup de main à une équipe sur place ?» Nous sommes tous appelés, la question c'est « À quoi suis-je appelé ? Quel est mon rôle ?» Ici, toute cette équipe d'Antioche, ils sont tous appelés à servir le Seigneur. La question est plus « Qui est appelé à Antioche et qui est appelé ailleurs ?» La question n'est pas « Il y en a certains qui sont appelés, puis les autres, les pauvres, ils sont obligés de rester. » Nous sommes tous appelés. Et là aussi, pour être un peu concret, dans nos unions d'église et dans nos missions, nous avons des commissions de ministère qui sont justement là pour nous aider à discerner notre appel. Parce que ce n'est pas toujours simple à discerner notre appel. Certains pensent qu'ils sont appelés et ne le sont manifestement pas, et d'autres sont clairement appelés, mais ils ne ressentent pas ou ils ne se sentent pas concernés. C'est là où c'est parfois important de faire des courts séjours pour parfois un peu tester les choses. J'ai marqué dans mes notes, pour tester notre capacité à changer de monde. C'est pas facile de changer de culture. Il est nécessaire d'avoir en quelque sorte un triple appel. La conviction personnelle, la conviction de l'église locale et la conviction de la mission qui accueille. Pour Paul et Barnabas, vous voyez qu'il n'y a pas la mission, parce que c'est eux qui vont la créer. Mais dans la suite, on voit qu'il y aura ce troisième élément. Notamment quand Timothée, par exemple, entre dans le ministère, il y a Timothée qui est appelé, il y a son église qui le reconnaît, mais il y a aussi la mission, en l'occurrence là, l'apôtre Paul, qui va le reconnaître, reconnaître son appel pour la mission. Voilà. Et si on parle de mission, on leur dira tout à l'heure, il nous faut rappeler que nous sommes tous appelés aussi à la générosité. La question, c'est être généreux comment ? Ouais. On peut être généreux en personne, envoyer des gens, on peut être généreux en temps, donner notre temps, ou on peut être généreux en argent. Là aussi, à quoi le Seigneur m'appelle ? Il est certain, il m'appelle à être généreux, pour que le royaume de Dieu avance. Et, si j'ose le dire, pour nos pasteurs et les missionnaires, en tout cas pour ceux que j'accompagne, ils ont pour la plupart besoin de donateurs, mais ils ont aussi besoin de courriers, de visites et d'intercessions. Voilà. Alors, tout à l'heure, il y aura une collecte pour SEM28. Vous pourrez soutenir les projets spécifiques de SEM28, mais il y a bien sûr d'autres œuvres qui ont besoin de notre soutien, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes appelés à être généreux. Voilà. Que penser du jeûne ? Si tu peux mettre la diapo suivante. Alors, pour le dire très courtement, la question, ce n'est pas tellement le jeûne, c'est la question de la prière. C'est ça qui compte, la prière. Je crois que le jeûne est une aide précieuse pour prier, mais ce qui compte, c'est la prière. Qu'est-ce qui vous aide ? Qu'est-ce qui vous stimule ? Qu'est-ce qui vous aide à approfondir votre vie de prière ? Je pense que c'est une question très importante, tant la prière est une des choses les plus importantes, peut-être la plus importante que nous faisons sur cette terre. Qu'est-ce qui nous aide à approfondir, à stimuler notre vie de prière ? Comme je l'ai dit, le jeûne est un des moyens qui nous permet d'approfondir notre vie de prière, mais nous ne nous trompons pas, hein. L'important c'est pas le jeûne, l'important c'est la prière. J'entends parfois que des gens se mettent à jeûner dans le but de donner de la puissance à la prière. Et c'est pas du tout ce que dit la Bible. Si nous voulons donner du poids à nos prières, nous sommes appelés à marcher jour après jour dans la sainteté. Nous sommes appelés à nous mettre à l'écoute de la volonté de Dieu. Ce qui marche, c'est prier au nom de Jésus. Vous savez, prier au nom de Jésus, ce n'est pas rajouter à la fin de la prière au nom de Jésus, vous voyez ? C'est prier, connaître la volonté de Dieu pour prier selon sa volonté. Et ça, il n'y a pas de raccourci. Hein. Ça, c'est un travail de tous les jours. Apprendre à marcher avec le Seigneur, à nous laisser transformer, apprendre à aimer ce que le Seigneur aime. Concrètement, il y a trois manières différentes de jeûner qui sont pratiquées. Voilà. Et on les trouve d'ailleurs dans le Nouveau Testament, en tout cas deux des trois. Le premier, c'est le jeûne comme une discipline habituelle. On a tous des disciplines spirituelles. Lire la Bible, prier, ouais, hein, venir au culte. Hein. Voilà. Le jeûne est aussi une discipline spirituelle. Voilà. Typiquement, pour certains, un repas par semaine, il ne mange pas, il jeûne et il prie. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire le premier vendredi du mois en lien avec la veillée de prière. Lorsque j'étais étudiant avec mon petit groupe biblique, on jeûnait tous les vendredis midi. Il y avait deux buts à ça. Le premier, c'était simplement d'avoir du temps pour prier ensemble. Parce que sinon, on n'avait pas le temps pour se retrouver dans les emplois du temps du lycée. C'était peut-être basique, hein, mais c'était ça aussi, hein. Et accessoirement, ça permettait de mettre le prix du repas pour une mission. On était étudiants, on n'avait pas grand-chose dessous, on pouvait mettre l'équivalent d'un repas pour la mission. Vous voyez, ça ne fait pas très spirituel comme ça. Mais vous vous rappelez, ce qui compte, c'est la prière. Comment je prends du temps pour prier ? Ouais. Je crois qu'en France, on est beaucoup trop bien nourris. Donc sauter un repas, ce n'est pas encore vraiment du jeûne. Disons-le, hein. Par contre, ce qui est vraiment du jeûne pour nous, c'est de se passer de Wi-Fi pendant quelques heures. Oui ? Ça, pour nous Français, ça, c'est du jeûne. Ça nous coûte. Hein ? Pas de radio, pas de télé, pas de téléphone, tout débranché. Vous avez déjà fait ça ? Prendre vraiment le temps d'être dans le silence. Vraiment dans le silence. Et prier. Un deuxième type de jeûne, c'est de jeûner dans le cadre d'une retraite de prière, dans un temps à part. C'est en tout cas de toute façon important de très régulièrement prendre du temps à part pour être seul avec le Seigneur parce qu'on est souvent dans beaucoup de trop de bruit et d'activité. Et je vous encourage vraiment une fois par an à vous mettre quelques jours à part pour prier. Alors ça peut être seul dans votre coin ou ça peut être en groupe, Il y a quelques-unes d'entre nous, parce que c'était seulement pour les dames, sont allées à Nouhans-le-Fuselier pour une rencontre de dames nationales. Voilà, ça peut être ce cadre-là, ça peut être dans d'autres cadres. Voilà. Je vous encourage en tout cas à vous prendre du temps pour ça. Je le dis souvent, hein, moi il me faut au moins 3 jours d'affilée. Un jour pour calmer mon moteur intérieur, le premier jour ça tourne tellement dans la tête, voilà. Un deuxième jour pour gérer toutes les pensées, parce que dès que j'arrête les activités, il y a toutes des pensées que j'ai cachées derrière qui viennent. Hein. Puis le troisième jour, je peux commencer à prier. Donc c'est dommage de s'arrêter avant. Hein. Ça c'est pour moi, hein, parce que voilà. Bon, mais bon, je vous encourage vraiment à prendre du temps. Là aussi, il y en a qui sont derrière. Où c'est que j'ai mis ça? Voilà. Claude et Brebis, c'est tout près d'ici. Un centre. C'est à la fois un gîte et un centre de relations d'aide, mais aussi de prière. Vous savez aussi que ça se pratique aussi à Gobert. Nos amis Alain Chamard proposent aussi des choses. Et puis, pas très loin d'ici, juste à côté de la gare de Versailles-Chantier, il y a les Sœurs de Reuilly qui proposent aussi un lieu de retraite. Alors, ça s'appelle Sœurs de Reuilly parce qu'elles étaient avant en Reuilly, mais tant elles sont à Versailles, bon, voilà. Ouais. Je vous encourage vraiment à mettre du temps à part pour prier. Et la troisième forme de jeûne, c'est prendre un temps spécifique pour quelque chose de précis, un temps de repentance ou un temps d'intercession, par exemple. Et je pense, dans des temps de prière comme ça, spécifiques, je pense que le jeûne est aussi une aide importante. Plusieurs l'ont fait, notamment le 3 mars dernier, quand on a prié ensemble. Mais voilà, par exemple, en Suisse, une fois par année, depuis 1870, il y a un jour férié consacré au jeûne et à la prière. Ouais. Alors, certains le prennent surtout pour aller se balader, et d'autres vraiment pour jeûner et prier pour la paix dans le monde. Ouais, je trouve ça intéressant. Bon, voilà, mais bon. D'ailleurs, il y a un peu pour une petite blague. En principe, il y a le jour de jeûne qui est un dimanche, et puis le lendemain, on est censé manger juste une tarte aux pruneaux. Parce qu'après avoir jeûné une journée, il ne faut pas trop manger le lendemain. Ouais. Puis comme c'est en septembre, c'est plutôt tarte aux pruneaux qu'autre chose. Hein. Mais la tradition, c'est que, en fait, la tarte aux pruneaux devient le dessert à se rajouter à un grand repas de famille. Vous voyez, ça ressemble plus tellement à un jeûne. Hein. Mais bon, bref. Le jeûne est une aide précieuse pour prier, mais ce qui compte, c'est mettre du temps à part pour prier. Et j'ai marqué quelques petits mots pratiques pour ceux qui veulent pratiquer le jeûne. Ouais, le principal, c'est la prière. Et il est important de toujours un peu vérifier nos motivations. Comme je l'ai dit, beaucoup trop de gens se mettent à jeûner pour forcer Dieu à agir. Et je pense que c'est plutôt une forme d'idolâtrie qu'une preuve de foi. Vous savez combien Jésus a fustigé les pharisiens qui jeûnaient pour montrer aux autres qu'ils étaient très spirituels. J'ai dit prévoir du temps sans téléphone, sans tablette, sans TV, sans MP3, un temps de silence pour prier. Quand j'étais dans le ministère étudiant, chaque année, on faisait une retraite de silence et de jeûne autour de Pâques, de 4 jours, depuis le jeudi soir jusqu'au lundi. Et c'était très intéressant de voir les étudiants qui... C'était compliqué le silence, hein ? Vraiment compliqué. Alors certains prenaient la guitare, ils étaient tout le temps en train de louer Dieu, mais on se rendait bien compte que ce n'était pas un problème de louer Dieu, c'était meubler le silence qui les dérangeait. Apprendre à prier. En principe, le jeûne chrétien est un jeûne où on boit. Les jeûnes secs sont présentés dans la Bible comme des jeûnes exceptionnels. En principe, on jeûne en buvant et on boit beaucoup plus que d'habitude parce qu'en fait, on boit beaucoup en mangeant. Il y a beaucoup de liquide dans les aliments qu'on mange. Si vous souhaitez faire un jeûne sec, c'est évidemment possible, mais demandez un avis médical. Dans la Bible, comme le dit, c'est plutôt quelque chose d'inhabituel. Vous avez vu dans le passage qu'on a lu dans Actes 13, on jeûne pour se consacrer à Dieu. Oui, c'est pour ça qu'ils jeûnent. Pour consacrer à Dieu toute l'équipe, ceux qui partent et ceux qui restent. Voilà. Je vous ai mis un bref mot de résumé. Dans ce court passage, on voit une équipe d'une des premières églises et on voit un certain nombre de points qui nous sont présentés. Une équipe qui s'est profité de ses différences. Et ce n'est pas facile. L'uniformité donne de l'efficacité, mais donne rarement de la sagesse. C'est une équipe qui sait prier, qui sait prier en mettant Dieu en premier et qui sait prier en sachant écouter Dieu et non pas en s'écoutant soi-même seulement. Parfois, nos prières, c'est ça. Hein, on s'écoute et on balance à Dieu tout ce qu'on a écouté sur nous. Une équipe qui prie et qui jeûne pour discerner la volonté de Dieu dans le but de la faire. Parfois, ça aussi, on écoute bien Dieu, mais pas dans le but de la faire, juste dans le but de savoir. Une équipe aussi très consciente de la présence de Dieu et qui vive ici leur réunion concrètement avec le Saint-Esprit. Voilà, quelques mots de commentaire rapides sur ce passage. Je vous invite encore à prier. Seigneur Jésus, je te suis reconnaissant pour ces nombreuses personnes qui ont été prêtes à se mettre à ta disposition, pour servir dans leur église locale ou pour servir ailleurs. Et je te prie de les consacrer encore à nouveau. Tu vois comme parfois on a des bonnes motivations de départ et on glisse petit à petit. Seigneur, aide-nous à nous centrer sur toi. Tu es notre Seigneur, notre Maître. C'est pour toi qu'on vit. Et on veut vivre en fonction de ta volonté. Amen.